Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je reviens pour la première réflexion mensuelle de l'année 2022. J'espère que l'année commence bien pour vous. En ce qui me concerne, en ce moment il y a des travaux chez moi, ce qui est très bien parce que lorsque ces travaux seront finis, ce sera très très chouette. En attendant, j'ai un petit peu de mal à trouver de la tranquillité pour enregistrer les podcasts. Donc sachez que je suis dans mon placard à vêtements. C'est une anecdote que je trouvais rigolote à partager avec vous. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous partager ce qui m'a occupé l'esprit et les réflexions ces derniers temps en tant qu'artiste et être humain. Et donc cette année, je me suis intentionnellement créé un cocon d'hibernation, de réflexion, de remise en question de mes systèmes et de mon organisation. C'est-à-dire que à peu près du 15 décembre au 15 janvier à la louche, j'ai ralenti la cadence de travail, j'ai pris des congés, des vrais congés pendant les fêtes, et ensuite, quand je suis revenue, j'ai pris le temps de tout remettre à plat et de décider ce qui me sert encore, ce qui ne me sert plus, comment j'ai envie d'avancer à partir de maintenant. Et ça m'a fait un bien fou. Finalement, quand on met en place que ce soit un système d'organisation, quand on choisit des habitudes, quand on décide dans quel magasin on va faire nos courses, quand on se choisit une routine matinale, quand on choisit un logiciel en particulier pour noter les tâches, gérer les emails ou autre chose, en fait on prend une décision sur le moment, on va choisir un produit, un outil, une habitude, un endroit, on va prendre de l'énergie sur le coup à comparer et à faire un choix. Et ce choix nous simplifie la vie future parce que ça crée quelque part des rails sur lesquels on peut ensuite avancer. On n'a pas besoin de re-choisir dans quel magasin on achète les légumes chaque semaine. Une fois qu'on a choisi une fois, on prend l'habitude de le faire et ça nous allège la charge mentale. Donc en gros, on peut se reposer sur une décision passée, sur ce système qu'on a mis en place dans notre quotidien pour que ce soit plus doux, plus fluide et qu'on ne perde pas d'énergie à prendre des décisions encore et toujours. Cela étant, cette année, j'ai également pris conscience que parfois, on continue à avancer sur des rails qui ont été posés par notre moi passé et qui ne nous conviennent plus tout à fait aujourd'hui. Soit parce qu'on a changé, soit parce que nos circonstances de vie ont évolué. Donc soit un changement interne, soit un changement externe. Et souvent, c'est un mélange des deux. Et du coup, si on ne prend pas la peine, au moins de temps à autre, de remettre en cause nos décisions passées, mais en fait, on ne peut pas emmener notre vie avec intention vers la personne qu'on veut devenir. Pour faire un clin d'œil à l'épisode précédent sur l'identité. C'est-à-dire que si on ne change pas un tout petit peu la direction des rails, et ben on continue à aller là où on voulait aller avant, sauf qu'entre-temps on a changé, on ne veut plus forcément aller au même endroit qu'avant. Du coup, cet hiver, j'ai passé en revue mes grands systèmes d'organisation personnelle, artistique et professionnelle, pour voir un petit peu où des changements pourraient être nécessaires. Alors rassurez-vous, j'ai pas tout changé, hein. À mon avis, ce serait absolument intenable en termes de charge mentale. Ces rails qu'on pose avec ces décisions qu'on prend à l'avance pour le futur, ils sont là pour une bonne raison. Je dirais que j'ai à peu près gardé 80% de mon organisation précédente et que j'ai dû faire évoluer à peu près 20% de mes systèmes et habitudes. C'est pas si énorme que ça, mais ce sont ces 20% qui font que, année après année, je modifie légèrement la trajectoire des rails pour m'emmener vers la vie que j'ai l'intention de mener aujourd'hui. Et donc parmi ces 20% qui ont évolué, se situe un sujet qui m'occupe beaucoup l'esprit en ce moment, comme vous l'avez sûrement constaté si vous suivez mes divers contenus, à savoir la consommation d'informations sur Internet et tout ce qui est réseaux commerciaux. J'ai donc remis un petit peu à plat ma simplicité numérique en 2022, et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette bulle nomade aujourd'hui. Alors, concernant la consommation d'informations en ligne en particulier, que ce soit l'actualité, des articles sur des sujets qui m'intéressent personnellement, etc., j'aurais beaucoup de choses à dire sur la manière dont fonctionnent les médias et l'actu aujourd'hui, mais c'est pas le sujet du jour. Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que je préfère l'information de qualité, avec de l'analyse en profondeur, avec des propos nuancés, plutôt que des articles qui sont pondus en vitesse pour créer du clic, vous voyez. Et ça, c'est pas nouveau. J'ai toujours préféré la qualité et la profondeur plutôt que la quantité et l'instantanéité, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne consomme pratiquement pas d'actualité. Je pars du principe que si une info est vraiment importante, je serai au courant. Si c'est une info qui affecte vraiment ma vie, je serai au courant. Et ça a toujours été le cas jusque-là. Cela dit, je consomme quand même de l'information au sens large sur Internet, que ce soit culturel, des articles autour de sujets qui m'intéressent, comme la philosophie, la psychologie ou l'art, etc. Et le changement principal que j'ai choisi de faire en 2022 par rapport à cette consommation d'informations, c'est de ne plus dépendre d'algorithmes pour recevoir ces informations. Jusque-là, je comptais un petit peu quand même sur les réseaux commerciaux, et en partie sur les newsletters, mais pas tant que ça en réalité, parce que quand je reçois des emails, je vais lire le contenu de l'email, je préfère les newsletters qui sont elles-mêmes un contenu, mais je vais pas forcément aller cliquer sur des articles qui sont recommandés par une newsletter. Donc au final, je consomme assez peu d'informations, on va dire, en profondeur, vraiment d'essais, d'articles sur Internet via les newsletters. C'était vraiment plutôt sur les réseaux commerciaux que je comptais. Lorsque une publication ou une personne qui tient un blog personnel va poster, je sais pas moi, une story Instagram ou un truc comme ça pour dire j'ai sorti un nouvel article sur Medium ou quelque chose de ce genre-là. Et le problème, c'est que ben l'algorithme ne m'en montre pas forcément toutes les mises à jour de tout le monde, puisque par définition, l'algorithme choisit pour moi ce que je vois. Donc du coup, j'étais pas sûre de recevoir toutes les informations, et quelque part, je dépendais de cet algorithme pour qui décidait à ma place ce que j'avais le droit de lire, quoi, quelque part. Donc aujourd'hui, je veux choisir quelles sources d'informations me nourrissent, je veux choisir quand j'y ai accès, j'ai pas envie de dépendre des mises à jour des réseaux sociaux pour savoir si un nouvel article a été publié ou pas, et je veux tout voir de manière chronologique pour faire mon choix sur les articles qui m'intéressent. Je veux pas risquer de rater un article parce que l'algorithme m'a pas montré la mise à jour. Je veux vraiment avoir une liste des articles, des sources que j'ai choisies, qui me sont montrées sous forme chronologique, et je choisis sur quoi je clique, et je choisis ce que je sélectionne et ce que je choisis de lire. Et en ce qui concerne la consommation de contenu vidéo, une parenthèse là-dessus, parce que mon fonctionnement est un petit peu différent. Donc les vidéos, alors je parle pas des séries télé ou des choses comme ça, je parle vraiment des vidéos de type contenu informatif, éducatif, divertissant, je parle pas de fiction, vous voyez. Parce que ça, la fiction, ça va être Netflix et compagnie, c'est un autre sujet. Donc en ce qui concerne la consommation de vidéos informatives, je le fais essentiellement sur YouTube, où heureusement, il existe encore l'onglet abonnement qui permet de voir dans l'ordre chronologique ce qu'ont publié les chaînes auxquelles j'ai choisi de m'abonner et uniquement les chaînes auxquelles j'ai choisi de m'abonner. Donc en gros, quand je décide de regarder quelques vidéos YouTube, je vais sur l'onglet abonnement et je pioche les vidéos que j'ai envie de voir, tout simplement. Maintenant pour les articles écrits, donc ça n'a pas changé pour les vidéos, c'était déjà comme ça en 2021, c'est pour les articles écrits que j'ai remis un petit peu en cause mon système. Donc c'est rien de révolutionnaire parce qu'en fait je suis revenue à un système que j'utilisais il y a quelques années. À savoir que je suis revenue à la technologie de ce qu'on appelle le flux RSS pour rassembler les dernières publications de sites que je choisis de suivre. Donc en fait les flux RSS c'est quoi? C'est des applications. Donc moi j'utilise celle qui s'appelle Feedly, mais il y en a plusieurs, dans lesquelles je vais rentrer l'adresse du site internet qui m'intéresse. Et du coup, sur l'application va apparaître sous forme d'actu, en fait, sous forme de liste, les derniers articles qui sont parus sur le site en question, dans l'ordre chronologique. Et après, je peux classer les sites par sujet, par exemple, enfin, je peux les classer comme je veux, en fait, après les sites. Et je crois que Feedly permet d'avoir jusqu'à 100 sources. Donc, pour une personne individuelle comme moi, c'est largement suffisant. Je suis loin d'avoir 100 sites que je trouve suffisamment qualitatifs et intéressants pour suivre leur publication, pour être honnête avec vous. Donc ça, c'est là où j'agrège finalement les contenus sans algorithme. Et ensuite, une fois que j'ai ma liste, eh bien, un temps déterminé qui me fait plaisir, ça peut être une, deux fois par semaine, avec mon café, dans le week-end, etc., je vais parcourir mon flux Feedly. Et je vais choisir parmi tous les articles qui sont sortis ceux que j'ai envie de lire. Et ceux que j'ai envie de lire, je vais ensuite les envoyer sur une autre application qui s'appelle Pocket. Ça a l'air difficile quand je vous l'explique comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus simple que d'aller sur Instagram ou je sais pas où, et puis trier dans toutes les merdes qu'on voit où est-ce qu'il y a un article intéressant sur lequel cliquer, quoi. Donc une fois que j'ai choisi les articles, je vais cliquer dessus dans Feedly et je vais venir les enregistrer dans l'application qui s'appelle Pocket. Donc là aussi, il y en a plusieurs, c'est des applications de lecteurs d'articles en fait, et qui nous permettent de les lire sans tout l'habillage du site en fait. On le lit vraiment comme un PDF de livre électronique, sans avoir les menus sur le côté, Et évidemment, sans avoir les pubs, évidemment, qui sont sur le site aussi. Donc ça permet d'avoir une lecture qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, avec beaucoup moins de distractions, en fait. Donc il y en a plusieurs des applications qui font ça. Moi, j'utilise celle qui s'appelle Pocket, parce que je peux la relier à ma liseuse. Et du coup, je peux venir lire les articles que j'ai choisis directement, soit sur ma liseuse, soit sur ma tablette, en fait, mon iPad, par exemple. Donc, au final, les logiciels que j'utilise, donc Feedly et Pocket, peu importe, ce sont des moyens d'arriver à mes fins. L'important, c'est que je contourne les algorithmes et les réseaux commerciaux, je prends le temps de sélectionner des contenus de qualité qui me plaisent, et je les lis dans un contexte apaisé, lors d'un moment que j'ai choisi pour le faire. Assise confortablement dans mon fauteuil de lecture, avec un thé chaud, sur ma tablette ou ma liseuse, sans distraction. Donc ça améliore non seulement la qualité du contenu que j'ai choisi, mais ça améliore aussi la qualité du moment. Et quelque part, je retrouve un petit peu l'expérience de lecture du journal papier qu'avaient les gens par le passé, et qu'ont encore certaines personnes qui lisent le journal aujourd'hui, j'imagine, hein, qu'on a peut-être oublié en étant trop habitué aux distractions à droite et à gauche, et que je retrouve avec grand plaisir en ce moment. Mais le plus gros morceau de la réflexion, c'est mon rapport aux réseaux commerciaux de manière générale, que ce soit en tant qu'utilisatrice ou créatrice de contenu, que vous aurez peut-être deviné quand vous m'écoutez dire que je m'affranchis des réseaux commerciaux pour consommer les articles d'information que j'ai envie de lire. Déjà, qu'est-ce que j'appelle un réseau commercial ? Ce sont ces réseaux privés qui aiment bien s'appeler eux-mêmes réseau social, mais en fait ce n'est pas social, c'est commercial, c'est pour ça que j'appelle ça un réseau commercial, qui nécessite de créer un compte si on veut publier ou lire du contenu. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un profil et qu'ils peuvent suivre nos données, qu'on ne peut pas le consulter de manière anonyme, et dont les flux, donc votre page où vous avez les publications qui apparaissent, sont régies par des algorithmes. C'est-à-dire que vous avez beau suivre des comptes, que ce soit vos amis ou des personnes publiques, des marques, etc., c'est une intelligence artificielle qui décide ce que vous voyez. Ce ne sont pas les publications dans l'ordre chronologique de vos abonnements. Et souvent, en plus de ça, c'est entrecoupé de publicité. Donc au milieu de tout ça, vous avez plein de choses que vous n'avez en fait pas envie de voir. C'est l'algorithme qui décide ce que vous voyez, c'est pas vous. Et vous avez bien souvent un système de notification, donc notification de messages, de likes, de commentaires, de choses comme ça, qui nous incite à continuer à interagir avec le contenu. Il y a de plus en plus des notifications qui sont de type « Oh, machin a suivi Bidule, venez le suivre vous aussi », ou « Bidule a publié des photos », ça c'est même plus des notifications de notre activité, mais vraiment des incitations à continuer à interagir et à rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Et ce fameux fil des contenus, non content d'être régi par des algorithmes, est aussi en général infini. Ce qui fait qu'on peut y passer des heures sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin, ça génère toujours des nouvelles publications à regarder. Et ce sont en général des contenus très superficiels, des textes courts, des petites images ou des vidéos courtes. En fait, ce ne sont pas des plateformes où on a le temps d'aller en profondeur. Ce qui rend la qualité intrinsèque des contenus assez limitée, même lorsque les créateurs et créatrices font preuve de beaucoup de créativité et d'inventivité. C'est-à-dire qu'il y a une limite inhérente au format court, quelque part. Donc si on veut résumer tout ça, un réseau commercial, c'est un bout d'Internet qui a été privatisé par une entreprise, qui vous oblige à vous identifier pour pouvoir être dessus, donc qui suit tout ce que vous faites, qui contrôle quel contenu vous voyez, qui récupère vos données pour cibler la publicité que vous allez voir au mieux, donc les clients, c'est pas nous, c'est les publicitaires, et qui utilise des techniques de neuromarketing pour nous inciter à rester dessus le plus longtemps possible. Donc ça, c'est en tant qu'utilisateur et utilisatrice. Et pour les créateurs et créatrices de contenu, nous dépendons des règles de ce bout d'Internet privatisé. Même si c'est notre travail et notre régularité qui nous amènent nos abonnés, nous sommes dépendants des algorithmes qui peuvent nous punir, qui peuvent cacher notre contenu à nos propres abonnés et nous empêcher d'être visibles si on ne respecte pas les règles dictées par l'entreprise privée qui possède le réseau commercial. Par exemple, sur Facebook et Instagram, aujourd'hui, il n'y a que 5 à 10% de nos propres abonnés qui voient nos contenus. Tout ça pour nous forcer à payer de la publicité pour que le contenu soit vu. Moi, j'appelle ça de l'extorsion, personnellement. Quand on cache le contenu à ses propres abonnés pour forcer les créateurs et créatrices à payer de la pub pour être vus, j'appelle ça de l'extorsion. Donc par exemple, ce que je qualifie de réseau commercial, ce sont des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok. Et il y en a d'autres, ce ne sont que des exemples. Un petit mot sur YouTube qui pour moi est un cas hybride, puisque le cœur du contenu c'est la vidéo. Et les vidéos ne sont pas forcément courtes, il y a des vidéos très longues. Du coup j'y trouve du contenu de qualité si je choisis bien les chaînes auxquelles je m'abonne. Et l'onglet abonnement permet de contourner l'algorithme pour voir uniquement les contenus qu'on a choisi de suivre. Du coup, pour moi, ça n'a pas tout à fait les mêmes défauts qu'un réseau commercial classique. Cela étant, ça reste un réseau privatisé, avec les règles qui sont régies par Google, donc je n'aurais pas envie de dépendre uniquement de YouTube pour mon contenu, aussi bien en tant que consommatrice qu'en tant que créatrice. Du coup, maintenant que j'ai défini ce que j'appelle un réseau commercial, comment ai-je choisi de changer les choses en 2022? Déjà, j'ai choisi de revenir à moi, en tant qu'utilisatrice et créatrice. Quels sont mes véritables besoins que j'espère combler avec ces réseaux? Qu'est-ce que j'en attends réellement? Et est-ce qu'ils répondent encore à ces attentes ou pas? Parce que par exemple, je suis sur Instagram depuis 2014. Instagram a énormément changé en 8 ans. C'est pas garanti que Instagram m'apporte encore ce que j'attends, même si c'était le cas il y a 8 ans, vous voyez. Donc ma réponse ne sera peut-être pas la même que la vôtre, si vous choisissez d'étudier vous aussi votre consommation des réseaux commerciaux, mais ce que j'encourage, c'est de remettre de l'intention dedans, c'est-à-dire de prendre le temps de se poser consciemment la question, même si ma réponse et la vôtre ne seront pas forcément les mêmes. Pour m'aider à répondre à ces questions, j'ai effectué une petite expérimentation avec Instagram, qui est le réseau commercial que j'utilise le plus, voire peut-être même le dernier réseau commercial que j'utilise encore aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté d'utiliser la plateforme pendant un petit mois, à peu près de mi-décembre à mi-janvier. J'avais planifié des posts jusqu'au 24 décembre, et je me suis connectée en personne pour la dernière fois, ça devait être le 17 décembre, quelque chose comme ça. Et bon, c'était pas tellement prévu, pour être honnête, hein, comme expérimentation. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu envie de m'y connecter pendant les fêtes. Et en fait, ça m'a pas manqué. Et du coup, quand j'ai repris le travail le 4 janvier, j'ai pas eu envie de retourner sur Instagram. Et ça a été hyper intéressant, en fait, de constater ce que ça a changé dans mon quotidien pendant ce mois-là où je suis pas allée sur Instagram. Donc déjà, peu à peu, l'automatisme de cliquer sur l'icône Instagram à chaque fois que je déverrouille mon téléphone a disparu. Je me suis mise à penser à la plateforme de moins en moins. Mais surtout, le bénéfice principal, il est dans mon ressenti. Je me suis rendu compte à quel point je me sens comme agitée, stimulée à chaque fois que je me connecte à Instagram. Comme si mon cerveau était activé à un niveau presque inconscient, et ça m'agite. Je me demande ce qui se passe sur la plateforme quand j'y suis pas connectée, je me demande si j'ai eu des messages, des réponses, des likes, et ça me... comment dire... ça m'agite, quoi. Je sais pas trop quel mot utiliser, c'est comme si j'avais une espèce de démangeaison à la limite de mon inconscient qui est permanente, en fait. Et c'est assez effrayant quand on y pense, parce qu'en fait, il y a un vrai côté addictif. C'est une sorte d'acouphène mental permanent qui ramène mon attention vers le téléphone posé à côté de moi. Comme si mon téléphone me disait « Va voir Instagram, tu es peut-être en train de rater un truc hyper important !» Et en fait, ça crée un état d'agitation, une sorte d'insatisfaction diffuse. Vous savez, un peu comme cette impression quand on rentre dans une pièce pour faire quelque chose et qu'on a oublié ce qu'on était censé y faire. Et que donc, on a à la lisière de notre conscience une espèce de tâche qu'on sent qu'il faut qu'on accomplisse, mais on ne sait plus trop ce que c'est. Et ça crée une espèce d'état d'agitation, d'état d'insatisfaction, d'inachèvement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai la sensation qu'Instagram me crée cette espèce de sensation d'inachevé à chaque fois que j'étais pas en train de me connecter dessus, en fait. Et j'en avais pas conscience jusqu'à ce que ce sentiment disparaisse quand j'ai arrêté de consulter Instagram au quotidien. Et j'ai commencé à me sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, apaisée et tranquille. Et maintenant, mon téléphone peut être posé à côté de moi et je n'ai pas cette envie diffuse et permanente de le déverrouiller pour regarder des apps, que ce soit Instagram ou une autre. C'est comme si cet acouphène qui pesait sur ma charge mentale avait disparu. Et c'est même devenu l'inverse, en fait. Je me sens tellement mieux sans Instagram que j'avais aucune envie d'y retourner. J'ai eu la sensation d'avoir des journées, et surtout des soirées, parce que je le consultais beaucoup le soir, plus longues. J'ai l'impression d'avoir davantage d'attention à consacrer à mon mari, à mes proches, à ma série télévisée ou à mon livre ou à mon art que je suis en train de faire. Je me suis sentie beaucoup plus libre mentalement, en fait. Et c'est assez hallucinant, pour être honnête. Parce qu'en fait, je n'avais pas conscience, jusqu'à ce que j'arrête de consulter Instagram, de l'emprise que cette application avait sur mon mental, en fait. J'en avais pas conscience. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que vers la mi-janvier, dans le cadre de mon travail, j'ai cliqué sur le lien d'un profil Instagram d'une cosplayeuse depuis le navigateur internet de mon ordinateur pour voir le profil d'une nana avec qui on pourrait travailler pour mon studio de jeux vidéo. Or, ce que je ne savais pas, c'est que mon compte Instagram était connecté à sur mon navigateur internet. Et du coup, quand j'ai cliqué sur le profil, eh ben, toutes mes notifications en fait sont apparues sur la barre du haut d'Instagram. Donc j'ai vu que j'avais plein de likes, j'ai vu que j'avais plein de messages privés en attente, j'ai vu que j'avais reçu plein de commentaires. Et du coup, ça m'a travaillé, parce que après j'ai refermé la page, j'ai continué à travailler, enfin à faire ce que j'avais à faire quand j'étais au boulot et que j'avais cliqué là-dessus dans le cadre de mon boulot. Mais ça m'a travaillé. Ça, je me suis dit, ah mince, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des commentaires, il y a des gens qui attendent que je réponde, ah mince, ah mince, ah mince. Et c'est comme si instantanément, l'acouphène mental était revenu. Juste parce qu'il y avait une pastille rouge et les petits cœurs et les petits messages qui sont apparus en haut à droite de mon écran. C'est quand même hallucinant, quoi. Alors, l'acouphène mental était beaucoup plus faible qu'il ne l'était avant que j'arrête Instagram pendant un mois, mais il est quand même revenu. Et du coup, j'ai tenu une après-midi et à la fin de la journée de travail, dans la soirée, je me suis connectée sur Instagram pour répondre aux messages et aux commentaires en question et pour calmer cette espèce de démangeaison diffuse qui était revenue, quoi. Donc, l'expérience a vraiment été intéressante de faire cette pause Instagram et de revenir dessus comme ça sur plusieurs points que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Et pour info, les paliers changent légèrement à partir de février 2022. Donc je vous invite à découvrir la vidéo publique que j'ai partagée sur la plateforme Patreon pour vous présenter mon pourquoi et mes valeurs autour de la plateforme ainsi que les contreparties que j'ai choisies pour chaque palier. Donc le lien vers la vidéo est dans les notes de l'émission et elle est accessible à tous et toutes, même si vous n'avez pas de compte Patreon ou que vous ne me suivez pas encore là-dessus. Et notez aussi qu'à partir de maintenant, dans un souci d'accessibilité, les scripts des bulles nomades seront disponibles gratuitement dans l'article des notes d'émission sur le site floriteller.com. Alors, cette expérience de détox Instagram a été utile pour plusieurs raisons. Petit 1, je me suis reconnectée par pression après avoir vu les notifications. Sinon, je pense que je n'en aurais toujours pas eu envie. Donc quelque part, on voit déjà la manipulation à l'œuvre dans la manière de concevoir l'outil. C'est que je suis revenue par espèce de pression et d'agitation et non pas par envie. J'ai eu l'impression de perdre le contrôle en fait. C'est vraiment un truc de fou. Petit 2, quand je me suis reconnectée, j'ai constaté que certaines choses m'ont tout de suite gonflé. Donc déjà, les publications des marques qui me montrent leurs produits, et d'un seul coup, ça recrée une agitation et une envie d'acheter. Alors que oui, pendant le mois où j'ai pas eu Instagram, mes dépenses ont chuté de 80%. Hein. Mes dépenses, on va dire, je sais pas ce que c'est le terme, argent de poche, dépenses qui sont pas des dépenses de la maison, etc. Vraiment des dépenses plaisir. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, elles ont chuté de 80% parce que j'étais plus sur Instagram. Donc ça aussi, c'est un avantage. C'est que vraiment, Instagram me pousse à la consommation. C'est un truc de fou. Donc là, voilà, je me suis retrouvée à nouveau bombardée d'images de marques qui montrent leur nouvelle collection, leur nouveau machin, leur nouveau truc. Sans compter les pubs, qui montrent aussi plein de trucs à acheter, etc. Et puis les notifications qui n'en sont pas, c'est-à-dire que toutes les notifications que j'avais, comme en plus j'avais rien publié depuis plusieurs semaines, c'était des trucs du genre « Oh machin, c'est abonné à Bidule, est-ce que vous voulez pas découvrir le compte de Bidule ?»« Truc muche a publié des photos. » Et moi je suis là, mais c'est pas une notification ça, c'est une incitation à la consommation de contenu sur le réseau commercial, ça m'intéresse pas du tout, ça m'a gonflé. Les stories m'ont gavé dès la première que j'ai voulu regarder. J'ai cliqué dessus et en fait, je me suis dit mais ça m'intéresse pas en fait, c'est pas intéressant, c'est du contenu qui est vraiment hyper superficiel. C'est pas dans ces conditions-là que j'ai envie de consommer du contenu en fait. Et du coup, je l'ai refermé tout de suite. Et en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout cette idée que les stories disparaissent au bout de 24 heures. Parce que c'est encore une technique pour nous pousser à se connecter tous les jours pour ne rien rater. Et j'aime pas me sentir manipulée en fait. Hein. Je pense que c'est ça le fond du problème, c'est que je ne supporte pas de me sentir manipulée, je tiens beaucoup à mon libre arbitre. Petit 3, le fil de publication m'a quand même intéressée, notamment concernant les artistes qui m'inspirent, et je suis abonnée au hashtag aquarelle, enfin 2-3 hashtags autour de l'aquarelle, ce qui me permet de voir des œuvres que je n'aurais pas découvertes autrement. C'est-à-dire que quand je cherche une inspiration précise parce que je suis en train de préparer une peinture, je vais taper un sujet en particulier, soit sur Google Images, soit par exemple sur Pinterest, et du coup je vais voir des inspirations, mais sur le sujet que j'ai choisi. Alors que là, ça m'a permis de voir des idées de peinture sur des thèmes, des sujets, des couleurs, des machins, que moi, j'aurais pas pensé à rechercher par moi-même. Du coup, ça, c'était plutôt cool. Le côté inspiration était plutôt cool. Et petit 4, autre chose qui était plutôt cool, c'est que ça m'a fait super plaisir de lire les petits commentaires et les messages des abonnés. En fait, ça m'a fait plaisir de retrouver le contact avec les êtres humains, en fait. On en revient à ça, hein. Aujourd'hui, c'est le lien humain qui m'intéresse plus que tout le reste. J'ai envie de parler des êtres vivants, je n'ai pas envie de parler à des algorithmes, des recommandations de robots ou des chiffres d'audience. Et en fait, une des attentes que j'ai d'un réseau commercial, c'est la connexion, le lien humain, avec les personnes auxquelles je suis abonnée et avec les personnes qui sont abonnées à mon compte. Du coup, cette petite expérience m'a donné envie de remettre de l'intention dans tout ça et de décider consciemment en 2022 quels outils je veux utiliser pour répondre à mes besoins. Et donc les besoins en question, ce sont m'informer sur les dernières actus des personnes que je suis, m'inspirer, notamment en termes artistiques, et me connecter à d'autres êtres humains, créer du lien avec les êtres humains sur Internet. Donc du coup, par rapport à ces besoins-là, je me suis demandé comment je vais aborder les réseaux commerciaux selon mes critères, dans quelle mesure je m'y retrouve moi personnellement, plutôt que d'être poussée par la pression des chiffres, des notifications, des algorithmes. En fait, j'ai envie d'arrêter d'être manipulée par les réseaux commerciaux, tout simplement. Et cette réflexion me rappelle un passage du livre Deep Work par Cal Newport, qui existe en français et ils n'ont pas traduit le titre. Donc il s'appelle aussi Deep Work en français. Et dans ce livre, Cal Newport avance qu'il ne suffit pas de trouver un avantage pour s'abonner à un service. Donc ici, dans le cas d'un réseau commercial, l'avantage c'est que ce soit gratuit par exemple. Du coup c'est gratuit, qu'est-ce que j'ai à perdre à m'abonner, vous voyez ? C'est ça l'idée de faire quelque chose dès qu'on y trouve un avantage. Sauf que ce que suggère Cal Newport, et je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est qu'il propose d'évaluer réellement ce que ça coûte d'utiliser le service en question. De pas s'arrêter à « Ah, il y a un avantage », mais de regarder qu'est-ce que ça a comme inconvénient qui vont avec l'avantage en question, vous voyez ? Parce que si vous avez un avantage, c'est bien, mais si pour un avantage, il y a 10 inconvénients qui viennent avec, c'est peut-être plus judicieux de pas prendre le service, vous voyez ce que je veux dire ? Pour le coup, les inconvénients d'Instagram, pour reprendre cet exemple-là, j'en ai bien pris conscience grâce à mon mois de détox. C'est à savoir, dans mon cas personnel, après à vous de déterminer vos avantages et vos inconvénients, cette agitation mentale permanente, cette perte de temps constante en fait par grappe de 5-10 minutes disséminée tout au long de ma journée, mais qui me déconcentre, qui nuit à ma présence à l'instant et qui me distrait en fait. Et du coup, ça me coûte énormément d'énergie mentale, en plus du temps que ça me coûte quand je suis dessus. Et je pense que je ne fais qu'effleurer la surface des inconvénients potentiels des réseaux commerciaux avec ce que j'ai pu moi-même constater par expérience. Et ça, c'est une autre conversation qui m'a incité à y réfléchir cet hiver. Donc c'est dans le podcast en anglais qui s'appelle Unpublished, qui est animé par Amy McNee et son compagnon James. Et dans un des épisodes, elle a invité une autre artiste, dont le pseudo est London Artist sur Instagram, je crois. Et toutes les deux, elles ont parlé de divers sujets autour de l'art et de la promotion de l'artiste, etc., notamment Instagram. Et en fait, j'ai halluciné en écoutant leur conversation. Halluciné, je vous jure. Donc en fait, elles ont toutes les deux plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram. On est sur des comptes à 30, 40, 50 000 abonnés. Et elles parlaient de l'impact d'Instagram sur leur santé mentale, qui a l'air en fait encore plus grand, l'impact mental en question, justement parce qu'elles ont une plus grosse visibilité. C'est-à-dire qu'elles parlaient du fait qu'elles regardaient les chiffres tout le temps, de leur peur de perdre en visibilité, que quand elles postaient un truc, elles regardaient immédiatement les chiffres, et que si ils faisaient pas tout de suite beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, elles y pensaient toute la matinée et qu'elles finissaient par effacer le post. Enfin, je sais pas si vous vous imaginez la place que ça prend dans leur vie, en fait. Donc, je les juge pas, elles. Elles font comme elles peuvent, les pauvres. Elles gèrent ce qu'elles peuvent comme elles peuvent. C'est pas un jugement de ma part. Mais pour revenir à moi et à mes besoins et à ma réflexion pour moi-même, moi qui m'étais dit que d'avoir plus d'abonnés, ce serait une solution miracle en tant qu'artiste, parce que c'est un petit peu la promesse des réseaux commerciaux pour les créateurs et créatrices de contenu, hein. Ils nous vendent quelque part la promesse d'avoir de la visibilité et du coup d'avoir plus de clients pour nos produits, pour notre art, plus d'abonnés, plus d'audience pour nos contenus, etc. C'est un petit peu sur cette promesse-là, c'est un peu avec cette carotte-là qui nous font avancer en tant que créateurs et créatrices de contenu quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que si la réalité de tout ça, c'est que tout le côté émotionnellement toxique des réseaux commerciaux, tout le côté chiffres, comparaisons, peur de perdre en visibilité, la pression de suivre l'algorithme et de s'y conformer encore plus, que finalement on se sent encore plus soumis à l'algorithme parce qu'il y a plus d'enjeux, parce qu'on a plus d'abonnés, si c'est ça l'inconvénient qui va avec l'avantage d'avoir beaucoup d'abonnés, franchement, moi je veux pas de ça dans ma vie en fait. Je veux pas de ça dans ma vie. Du coup, En tant que créatrice de contenu, deux déductions se sont imposées à moi lors de ma réflexion annuelle. Petit 1, je refuse de dépendre des réseaux commerciaux pour ma visibilité et par extension pour mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est important, d'autant plus avec la maison d'édition qui va devoir avoir une viabilité économique pour continuer à exister. Donc, il va falloir que je pense chiffre d'affaires à un moment donné. Et je ne veux pas que ce chiffre d'affaires dépende de ma visibilité sur les réseaux commerciaux. Je ne veux pas que les ventes de la future boutique de Café aux Étoiles dépendent du bon vouloir des algorithmes des réseaux commerciaux. Ça, c'est clair et net. Parce que ça engendre beaucoup trop de dépendance à un réseau dont les règles m'échappent et changent constamment. Ça générerait beaucoup trop de pression. Et beaucoup trop d'inconvénients pour ma santé mentale et émotionnelle, et ça me rendrait beaucoup trop dépendante. Moi qui ai l'indépendance tout en haut de ma constellation de valeurs, il est hors de question que je dépende d'un réseau commercial pour la santé de mon entreprise. Alors la solution par rapport à ce premier point, alors ce sont des éléments que je devrais expérimenter avec Café aux Étoiles au moment de la sortie des premières collections, mais par exemple je peux aller voir des formations marketing sans réseaux sociaux, ça existe de plus en plus. Je peux aussi consacrer mon temps de communication plutôt à des contenus en profondeur, comme ce podcast, comme YouTube. Je peux aussi créer du lien avec vous autrement. Par exemple, via les lettres email ou via le serveur Discord, ce genre de choses. Je suis pas obligée de passer par les réseaux commerciaux pour créer du lien avec vous, en fait. Petit 2, je veux passer le moins de temps possible directement sur la plateforme où s'affichent les chiffres, les gros points rouges notifications, les pubs et toutes ces choses qui ont été conçues pour créer de la dopamine et influer sur mon comportement. Je n'aime pas l'état d'agitation en tant qu'utilisatrice, sans compter la pression des chiffres en tant que créatrice. Moins j'y suis directement soumise, mieux c'est. Alors la solution pour ce deuxième point, pour l'instant je vais rester sur les réseaux de janvier à mars, notamment, enfin les réseaux c'est Instagram et Pinterest, et je vais tester voir si ça me plaît de créer des contenus courts et si les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Pour limiter mon exposition à la plateforme en elle-même, j'utilise la plateforme Later, pour programmer les posts de manière à n'avoir à aller sur la plateforme directement que ponctuellement. Donc une fois par semaine, par exemple, pour mettre une épingle liée sur Pinterest si j'ai du contenu pour, ou pour répondre aux messages et aux commentaires sur Instagram. Et ensuite, je ferai un point à fin mars pour voir si les efforts fournis pour maintenir ces réseaux apportent vraiment de la valeur ou si j'arrête totalement de les alimenter en tant que créatrice. Donc je pense que ces questionnements n'en sont qu'à leur début. Je vais expérimenter beaucoup de choses en 2022 autour des réseaux commerciaux. Mais ce qui est important, c'est que j'ai choisi de mettre de l'intention autour de tout ça. J'ai décidé d'interroger ma vie intérieure, de prioriser toujours la qualité de mon attention, le moment présent, ainsi que ma santé mentale et émotionnelle. Donc j'y vais avec cette intention-là pour mes expérimentations de 2022. Voilà, j'espère que ces réflexions de simplicité numérique vous ont été utiles pour votre propre rapport à la consommation d'informations et aux réseaux commerciaux. Si vous avez des questions, remarques, commentaires ou idées autour du sujet, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn170 ou en me contactant via floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique tous les dimanches matins que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !